Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Merci en tout cas à nos amis de Radio Caraïbes International de nous permettre de faire cette émission depuis Fort-de-France ce matin. Salut à Samuel Tavernier, donc qui est, j'allais dire, le monsieur sport de cette radio. Bonjour Samuel.
Tout à fait, bonjour. Et puis un petit peu la cheville ouvrière qui a permis effectivement voilà, la mise en place de tout ça. Quoi,
en tout cas, on est ravis hein, d'être remarquablement accueillis dans des studios donc tout à fait non moins remarquables. On va rendre ce matin hommage au sport antillais qui a énormément, et surtout le sport martiniquais, donné donc au sport français. Hein. Alors on a plusieurs intervenants que grâce à Samuel donc on a pu effectivement avoir. D'abord un petit mot sur la couverture sportive de Radio Caraïbes, Samuel.
Eh bien, au niveau sportif, nous sommes la radio numéro 1 à tous les niveaux, mais surtout au niveau sportif. Et tous ceux qui sont là aujourd'hui peuvent en témoigner. Nous faisons des efforts particuliers. Nous avons une équipe remarquable également. Nous faisons tout ce qui est possible de faire pour rendre ce sport donc le plus beau possible au niveau de l'antenne, de le promotionner au maximum. Un sport sans promotion, eh bien, n'a pas de vie. Hein. Donc nous, on essaie de tout faire, même si parfois il y a des moments difficiles. Mais nos reporters sont toujours là. Nous sommes à la pointe de l'information. On peut dire que, bon, Radio Caraïbes, à ce niveau-là, fait un travail remarquable.
Très bien. Eh bien, on est en pleine forme. On fait une petite page de pub. On va à 7000 km de Fort-de-France. On retrouve nos studios. Et puis, on revient dans quelques secondes. Voilà, retour donc dans nos studios de Fort-de-France, un studio donc pour une émission ce matin spéciale consacrée au sport entier. On est ravis de recevoir M. Victor Eustache, le président du CROSMA. Alors, le CROSMA, c'est le donc, M. Cosma.
Oui, bonsoir. Bonsoir d'abord ouais. À la communauté antillaise
hein, ouais, de la région parisienne,
voilà. qui nous écoute. Oui, le CROSMA, c'est le comité régional olympique et sportif de la Martinique qui fédère l'ensemble des ligues et comités. Nous avons 55 ligues hein, et comités en Martinique.
Ce qui représente.
Ce qui représente à peu près 60 000 licenciés. Mm-hmm. Donc, un effectif relativement conséquent. Donc, le rôle du CROSS, c'est surtout, comme j'avais dit, de fédérer les ligues et de mettre en place un certain nombre d'actions, notamment de formation. C'est notre cœur de métier, puisque nous avons cette année formé des dirigeants bénévoles au nombre de 450 hein, dans les différents domaines d'intervention des dirigeants, aussi bien en ce qui concerne la gestion de l'association, et tous les autres domaines, l'informatique et consorts. Et puis, nous sommes les représentants également de ces ligues et comités auprès des institutions. D'accord. Je dis institutions, donc les collectivités locales et également l'État. Nous participons à la commission de sport de haut niveau. Nous siégeons également aux commissions mises en place par les collectivités pour l'examen des demandes de subventions faites par les ligues et comités, particulièrement la commission de la collectivité départementale. Bon, jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas tout à fait associés aux réunions de la commission régionale, mais n'empêche que bon, s'il y a un avis à donner, nous sommes également contactés.
Donc vous avez des rapports avec la métropole et notamment les gens de...
Alors nous dépendons, il faut savoir que le cross, comme tous les autres cross de France d'ailleurs, dépend du comité national olympique et sportif mmh. français. Mmh. Et puis nous faisons partie du comité national des cross et des DOS. Mmh. Et nous rencontrons régulièrement à l'occasion des assemblées générales organisées soit sur le territoire de la région parisienne ou décentralisée dans certaines régions de France, ce qui nous permet à cette occasion de rencontrer les présidents des autres ligues, des autres crosses, pardon, de Guadeloupe, de Guyane, de Mayotte. Et c'est à cette occasion, nous échangeons un peu, nous essayons d'harmoniser un peu les actions que nous mettons en place.
D'accord. Alors, brièvement, ça représente combien de sportifs licenciés, pratiquants?
Alors, 60 000, je vous ai dit. Il y a 60 000 licenciés. Il y a un travail important qui est fait par l'ensemble des ligues. Hein. Je veux citer l'athlétisme, mm-hmm. la natation, le cyclisme, le basket, le volley. Ce sont des ligues qui ont des résultats, à la fois à l'échelon local et certaines à l'échelon national. Vous connaissez un peu, c'est l'athlétisme et pourvoyeur d'athlètes pour les athlètes qui sont là, vont parler tout à l'heure, mais d'une manière générale, les ligues d'outre-mer sont les plus grands pourvoyeurs d'athlètes hein, de sport national. Mm-hmm. Au niveau du handball, On va vous en parler tout à l'heure. Il y a énormément de jeunes qui intègrent maintenant les structures nationales. Il en est de même que le basket. Et bon, le cyclisme, le président va vous en parler. Donc, c'est un domaine aussi qui est en développement, où il y a beaucoup de difficultés d'ailleurs, hein, ce qui concerne la préparation même des athlètes, puisque bon, le territoire est assez petit et ça lui pose un certain nombre de problèmes. Il est mieux passé que moi pour en parler. Donc, d'une manière générale, on peut dire que le sport martiniquais, c'est un sport qui est très vivant. Et il faut faire ressortir également que le sport de masse, d'une manière générale, et il y a une pratique très forte, hein, du sport de masse. Comme vous regardez, bon, on a un nombre de licenciés, c'est-à-dire dans le sport organisé, mais à côté, hein, vous avez ce qu'on appelle le sport inorganisé un peu, hein, où chacun ça donne. Et il faut remarquer qu'à ce niveau, nous avons une participation très forte de la population. Donc c'est une population sportive. Quand on dit population sportive, donc ça veut dire que c'est une population qui est en bonne santé.
Bien sûr.
Nous avons des structures de suivi également des athlètes de haut niveau et des médecins compétents qui interviennent dans ces structures. Donc, d'une manière générale, on peut dire que nos athlètes sont encadrés à la fois par des cadres bien formés, hein, qui participent à des stages soit dans la Caraïbe, soit sur le territoire national. Donc, un encadrement compétent. Et puis des athlètes motivés qui ont des infrastructures qui sont quand même de bon niveau. Grâce à l'action des collectivités, conseil général, conseil régional et de l'État, bien entendu, parce qu'il y a toujours une participation de l'État. Et on peut dire que le sport martiniquais, bon, il y a encore des développements à faire. Hein. Bon, il y a un certain nombre d'infrastructures manquantes, hein, telles que bon, un dojo départemental qui est réclamé, bon, le cyclisme également réclame une piste cyclable pour mieux préparer les athlètes.
Pas de piscine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nageurs martiniquais au niveau.
Alors, il y a quand même une bonne représentation de la natation au niveau caribéen. Ils participent à des compétitions caribéennes. Bon, en relation, ils ont formé une sélection Guadeloupe-Martinique-Guyane qui dame le plomb aux meilleurs nageurs des autres îles, notamment de Trinidad. Et de Bahamas. Hein, oui. Donc, ils arrivent, je crois que l'année dernière, ils ont pratiquement remporté la compétition. Mais c'est vrai qu'il y a un manque de bassin en Martinique, hein, pour permettre à ces athlètes de mieux se préparer. Donc la ligue de natation fait de gros efforts en ce sens, ce qui concerne la préparation des athlètes, mais c'est vrai que les infrastructures ne sont pas suffisantes. C'est-à-dire que la répartition des infrastructures sur le territoire mérite d'être améliorée, puisque bon, nous avons une piscine qui est au Lamantin. Hein. Il y a une autre au François, à Saint-Luce.
Au Carbet,
oui. On a une piscine olympique au Corbet. D'ailleurs, les athlètes français de l'équipe de France viennent chaque année, hein, se préparer à la piscine du Corbet. Et puis, il y a des projets. Bon, il y a un projet de piscine sur le territoire de la ville de Fort-de-France qui sera piloté par la CACEM, le conseil d'amélioration. La CACEM, c'est vraiment la communauté d'agglomération, hein, de Fort-de-France. Donc, ce sont des projets qui...
Et puis, un projet également, président, à Saint-Luce.
Il y a un projet de l'espace sud à Rivière-Salée.
Est-ce que vous rencontrez des problèmes de bénévoles comme chez nous en métropole?
C'est
un gros problème.
Le bénévolat, c'est pratiquement un sacerdoce. Hein, ouais. Tous ceux qui le font, ce sont des militants, hein, du sport. Comme on le sait, ils le font gratuitement. Parfois sur leurs heures de travail, parfois quand ils ont laissé le travail très tard. Hein, je le vois. Bon, j'ai omis de parler de la maison des sports. Nous avons une maison des sports qui appartient au mouvement sportif, où sont installés un certain nombre de ligues, hein, qui tiennent leur siège avec leurs salariés, donc qui tiennent un certain nombre de réunions à la maison des sports. Et nous avons été à un moment donné le seul cross à être propriétaire d'une maison des sports. Bon, maintenant, je sais que ça s'est un peu développé dans d'autres régions. Donc tout ceci pour dire que quand même, c'est grâce aux bénévoles, hein, que et à ce militantisme, comme je le disais, des membres, des associations, qu'on arrive à faire fructifier le sport. Et il faut leur rendre hommage, hein, d'autant que il y a un certain nombre de dispositifs qui ont toujours été réclamés pour, par exemple, une exonération, ça y concerne les taxes versées le terme passe là, sur les revenus, parce que bon, ils prennent sur leur temps pour dispenser une formation, mais jusqu'à maintenant, bon, on n'a pas pu obtenir ces engagements de la part de l'État. Bon, d'autres problèmes que nous rencontrons, c'est le problème du déplacement, du voyage des athlètes, puisque bon, il y a beaucoup d'échanges qui se font avec la France. Les athlètes doivent, certaines ligues doivent régulièrement envoyer des athlètes en France, soit pour faire des stages, soit pour participer à des compétitions, et ils payent le billet d'avion au même prix qu'un voyageur normal. Donc tout ça, ce sont des actions que le CROSS mène en vue d'obtenir des améliorations, du temps que nous avons rencontré dernièrement le ministre des Sports, son passage avec le Premier ministre en Martinique, nous lui avons exposé cette difficulté que nous avons en ce qui concerne la continuité territoriale. Quand bien même il existe au niveau de l'État ce qu'on appelle le fonds d'échange, et puis au niveau de la région, des sommes qui sont mises à disposition, mais cela ne suffit pas. Et il y a un effort, à mon avis, à faire pour quand un athlète voyage ou un dirigeant sportif voyage, qu'il puisse obtenir une réduction sur le billet d'avion. Mais c'est une bataille, donc ne baissons pas les bras et nous espérons que nous serons entendus aussi bien par les compagnies que par les responsables du ministère.
Et puis à un moment, donc, l'athlète est obligé de partir en métropole ou des fois en Amérique du Sud.
Oui, il arrive effectivement, beaucoup, hein? Un certain nombre sont obligés de laisser leur club pour pouvoir avoir des résultats au haut niveau, participer à des compétitions à l'échelon national et même et mondial. Et ça, c'est un problème. Et nous avons posé ce problème également au ministre des Sports. Parce que notre souhait, c'est que ces athlètes qui sont obligés de partir, hein, qui vont dans des clubs soit étrangers ou nationaux, puissent avoir également une licence en Martinique, parce que c'est une retombée d'image que nous n'avons pas. L'athlète part, il est formé, la formation basique a été faite chez nous en Martinique, mais quand il a des résultats au niveau national, on oublie le club d'où il est sorti. Ce que nous souhaitons, c'est que l'on puisse avoir un retour d'image, que l'on sache, hein, que cet athlète qui a remporté une compétition nationale mondial, qu'il a été formé en Martinique, dans un club de Martinique, et ça permet de voir le travail qui est fait quand même, de connaître le travail qui est fait à l'échelon local.
Il y a des sports émergents qui arrivent, des jeunes sports qui arrivent.
Alors,
il y a du surf et de la pirogue, c'est vrai.
La pirogue, non, alors il faut. C'est, nous avons ce qu'on appelle les yoles et les gommiers. Ce sont des sports traditionnels, hein, propres à la Martinique. Hein, la course de yoles, vous avez dû entendre parler dans votre région, le tour de la Martinique, des yoles rondes, qui est un spectacle extraordinaire, en couleur et puis en compétition sportive aussi. Et puis à côté, il y a une autre embarcation qui s'appelle le gommier, qui a également une très bonne renommée, fait un certain nombre de manifestations dans l'année. Et bon, les sports émergents, donc on a le badminton qui se pratique de plus en plus, hein, donc les jeunes s'adonnent à ce sport.
Surf,
et puis il y a le surf.
Le kitesurf
et il y a également le tir à l'arc, qui est un sport assez récent. qui draine également un certain nombre d'athlètes.
Et puis bientôt, président, le beach soccer,
qui a été supervisé, il y a une compétition qui a été supervisée par Cantonar dernièrement, et il semblerait qu'il y a un certain nombre de joueurs qui pourraient venir en France pour participer à des stages et éventuellement être retenus, s'ils donnent satisfaction, être retenus dans l'équipe de France pour participer au mondial de beach soccer.
Il y a aussi la météo, fatalement, hein. Vous êtes des fois en décalage au niveau des calendriers traditionnels.
Oui, par rapport...
Ça peut poser problème, non?
Non, parce que nous... Enfin, oui et non, parce que, bon, les calendriers, nous avons des phases... Enfin, ils vont nous expliquer ça tout à l'heure. Il y a des phases de championnats nationaux auxquels nous participons. Donc, nous sommes obligés, hein, effectivement, d'organiser nos championnats à des dates bien précises, hein, pour pouvoir accéder à ce qu'on appelle les finalités au niveau national. Mais de manière générale, je crois qu'on arrive toujours, hein, sauf en cas de fortes intempéries. Hein. Cette année, on a eu le cyclone qui a retardé un peu le début des compétitions, surtout pour les sports co. D'autant qu'il y a eu beaucoup d'équipements qui ont été endommagés, des salles polyvalentes, des terrains de foot également. Mais je crois que tout le monde s'est mis au travail pour faire en sorte que les championnats puissent se dérouler dans les meilleures conditions et dans les temps impartis pour pouvoir être prêts afin que les équipes qualifiées puissent participer au phase finale.
Alors, quels sont les moments sportifs phares du calendrier? Donc, Martiniquais, je crois qu'il y a le marathon de Fort-de-France qui est important.
Il y a le marathon de Fort-de-France, le semi-marathon dans la ville de Fort-de-France, qui a lieu au mois de novembre. Il y a le tour cycliste de la Martinique. Le président va vous en parler. C'est une épreuve très importante, très, très suivie, hein, par les sportifs martiniquais. Il y a également les phases finales. Ça, c'est quelque chose à voir. Les phases finales des sports co, notamment en handball. Mm-hmm. On vous en parlera. Au basket également, parce qu'il y a un public important que drainent ces manifestations. Et puis le football, bien entendu,
qui reste le sport numéro un,
qui organise un certain nombre de finales qui effectivement sont très suivies. Puis bon, le tout d'ailleurs, comme j'avais dit tout à l'heure. Et il y a le meeting du Conseil général qui... Alors, c'était un meeting international, hein, auquel participaient des athlètes internationaux, des Américains, des Jamaïcains,
Caribéens, Africains, qui
venaient. Bon, je crois qu'il a perdu un peu son label international, mais c'est un meeting quand même de haut niveau, hein, où il y a des performances quand même de niveau national, international même, qui sont réalisées.
Présent, vous êtes quand même un présent satisfait dans l'ensemble, comblé, il y a du chaud à faire naturellement, mais bon, là c'est l'heure des vœux, c'est l'heure des bilans pour 2007. Finalement, nous...
Oui, moi ce que je souhaite, c'est que nos responsables sportifs obtiennent les aides qu'ils souhaitent, hein, parce que sans des aides financières, les résultats, il est difficile d'avoir des résultats de bon niveau. Il y a un travail important qui est fait au niveau de la formation des cadres par les ligues et comités. Mm-hmm. Ce que je souhaite, c'est que cela puisse poursuivre, parce que si on a des résultats au niveau national et même international, c'est parce qu'il y a des cadres compétents qui ont été formés, qui dispensent des entraînements, une formation très élaborée aux athlètes. Et 2008, c'est l'année olympique.
Oui.
Donc, nous aurons très certainement des athlètes martiniquais, en particulier au niveau de l'athlétisme, hein, qui vont être, j'espère, retenus en équipe de France. Moi, ce que je leur souhaite, hein, c'est de porter très haut le flambeau du sport martiniquais et bon, d'avoir une très bonne préparation qui n'ait pas de blessure, parce que souvent, c'est ce qui arrive aux athlètes. Hein, en phase préparatoire, ils peuvent être blessés. Donc, ce que je leur souhaite, c'est qu'ils puissent avoir une bonne préparation et être en Chine pour nous faire vibrer, hein, par leur résultat. Et c'est encore une contribution qu'ils vont apporter au sport martiniquais. Et puis, le vœu, c'est que que les compétitions se passent dans un très bon esprit sportif et surtout que les actes de violence soient bannis, hein, sur les stades. À Martinique, on ne peut pas dire, hein, qu'on a des actes de violence importants, hein, sur les stades. Il y a un travail qui a été fait par les dirigeants, au niveau des athlètes, au niveau des joueurs. Et je pense que chacun prend conscience maintenant que le sport, c'est quelque chose de noble et qu'un athlète doit donner l'exemple. Et d'une manière générale, nos compétitions, il peut y avoir quelques dérapages. Donc ce que je souhaite, c'est que d'une manière générale, que ça se passe sans accroc et que nous puissions encore une fois être fiers de nos cadres et de nos athlètes.
Très bien, je suis sûr que ce sont des souhaits qui ont droit au cœur de Cédric Goldalg, hein, qui est le représentant de la Ligue d'athlétisme. Cédric, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est toujours un sport important, l'athlétisme. Hein. En Martinique, c'est le sport numéro 2 après le foot.
Tout d'abord, je vais dire bonjour à la communauté antillaise de Paris et de Rambouillet. Et oui, c'est vrai que l'athlétisme, c'est un sport qui a toujours été, depuis de longues dates, qui a toujours été, qui a toujours eu beaucoup de résultats. Et je dirais que c'est le sport numéro 2, c'est le sport numéro 1 au niveau des résultats. C'est vrai que le football est le sport de cœur et au niveau de la pratique et du nombre de licenciés en Martinique et en France, mais au niveau des résultats, l'athlétisme est le sport qui a toujours eu les meilleurs au niveau national, international, avec toute la modestie qui me va. Donc c'est un sport qui nous a toujours souri en Martinique parce qu'on a il paraît des qualités intrinsèques à l'Antillais ou Martiniquais. Et en plus, à côté de ça, on a de très bons entraîneurs, de très bons cadres, de très bons dirigeants, qui permettent aux athlètes déjà de talent de mieux profiter, de faire profiter à la nation, à la France, de leur qualité et d'optimiser leur qualité.
Ouais, c'est une question que vous avez souvent posée. Comment expliquer cette prédisposition des Martiniquais, des Antillais pour l'athlétisme ?
C'est une bonne question.
Je suis là pour ça.
Il y a eu toutes sortes de réponses, d'analyses à ce sujet. Ouais. Certains disent que ça vient de notre morphologie justement qui nous a été transmise par nos gènes. Je cherche le mot, par nos gènes africaines. Parce qu'il paraît que la race noire est prédisposée morphologiquement et génétiquement à des efforts des efforts plus dynamiques et plus importants au niveau de la force que d'autres races. Ça n'a pas vraiment été vérifié, donc c'est ce que certains ont avancé. Il y a le fait aussi que nous sommes dans un milieu tropical, dans une zone où il fait chaud toute l'année. Donc ce sont des conditions idéales pour s'entraîner, pour s'épanouir. Je dirais même pour faire des performances sans avoir à s'entraîner extrêmement, sans avoir à s'entraîner souvent, sans avoir à s'entraîner régulièrement, voire rigoureusement, parce que il y a beaucoup moins de risques de se blesser. Il y a ça permet d'optimiser la performance à au moindre fait de courir, de lancer, de sauter. Alors qu'en métropole, quand il fait froid, on est obligé de se couvrir, on est obligé d'avoir un entraînement bien particulier, bien rigoureux, pour d'abord réchauffer le muscle. Donc il y a des caractéristiques aux Antilles qui permettent d'optimiser la performance, je dirais. Et puis peut-être qu'on a plus la niaque que d'autres, je ne sais pas. Et peut-être aussi que finalement nos entraîneurs sont aussi bons, sinon meilleurs, qu'à d'autres endroits.
Et puis une prédilection pour les 100, 200 mètres, moins pour les courses de fond.
Oui. Ça s'explique plus facilement, parce que toujours pour cette particularité d'être dans une zone tropicale où il fait chaud, et on sait que la chaleur c'est l'ennemi des coureurs de demi-fond. Donc les conditions ne sont pas optimales, mais vraiment pas du tout pour s'entraîner, pour courir, pour se préparer à faire des courses de longue distance. Et c'est pour ça que je tire un chapeau à tous nos athlètes de demi-fond et de fond, notamment je pense à Claude Noillet qui essaie de tenir la dragée haute aux meilleurs Africains et aux meilleurs Français quand il part au championnat de France vétéran. D'ailleurs, il a été champion de France cette année ou l'an dernier vétéran. Parce que c'est pas toujours facile d'être au meilleur niveau et au niveau des Français et des Européens qui ont le climat qu'il faut pour s'entraîner et pour optimiser leur performance.
Mais justement, Cédric, excusez-moi Philippe, Claude Noillet est obligé de partir, s'entraîner à Fort-Romeu.
Faire des stages à Fort-Romeu,
revenir courir le marathon à Fort-de-France.
Voilà, donc ça prouve bien qu'ici, on n'a pas de site pour s'entraîner comme il faudrait pour les courses épreuves de demi-fond et de fond. On aura beau faire. Bon, d'une génération à une autre, on peut avoir des athlètes de talent. Qui peuvent on va dire naître avec ce bagage génétique qui fait qu'il peut être troisième comme Claude Noillet, voire vainqueur du semi-marathon une année, je me souviens plus exactement, c'était en 92. Il peut y avoir certaines athlètes qui sont au-dessus du lot, mais qui auront toujours du mal à être au meilleur niveau national et encore moins international, mais sinon ce sont des exemples qu'il y en a peut-être un, deux, trois sur une génération, mais ce sera difficile d'avoir toute une équipe, enfin un nombre bien conséquent d'athlètes portant les couleurs de la Martinique très hautes au niveau, parce qu'il y en a qui portent déjà les couleurs hautes de la Martinique au niveau du demi-fond, mais très hautes, c'est-à-dire au niveau national voire international, ce sera vraiment difficile parce que les conditions ne sont pas.
Ouais, donc à un moment, il faut partir.
Il faut partir et c'est encore plus vrai pour le demi-fond, c'est sûr. Après, si on en revient au sprint et au saut, voire même au lancer aussi. Le départ, l'exil n'est pas systématique. Pour peu qu'on puisse s'organiser et s'entourer d'abord de mon entraîneur, d'un docteur, d'un kiné, il faut s'organiser de beaucoup de choses, il faut avoir une grosse structure, et c'est ce qui fait que c'est difficile de rester ici. Je ne dirais pas que c'est le manque d'infrastructures. Elles sont là, les infrastructures, mais elles sont d'abord payantes pour l'athlète qui n'est pas professionnel. Et elles sont dispatchées un peu partout sur la Martinique. Elles ne sont pas toutes au même endroit. Donc, un athlète dans un club peut avoir une bonne structure, mais on aurait besoin d'une autre qui se trouve dans un club qui est à quelques kilomètres de là et ne peut pas y aller parce qu'il est à l'école ou parce qu'il travaille. Donc voilà, alors qu'en métropole, il y a beaucoup de pôles, de structures qui regroupent tout ça. Et pour peu qu'on ait un bon niveau, qu'on soit un espoir de l'athlétisme français, on est accueilli, on est pris en charge, on n'a pratiquement rien à payer, puisqu'on est pris en charge par la fédération, et donc finalement c'est beaucoup plus simple.
Voilà. Vous attendez beaucoup des Jeux de cette année pour votre sport ici en Martinique? Il y a toujours des retombées. Hein,
oui, c'est sûr qu'il y a toujours des retombées. Donc, je représente l'un des sports qui attend beaucoup de, des jeux. Puisque...
Très bien. Allez, la pause musicale et puis ensuite, on poursuit avec les autres sports. Donc, le rugby, le hand et le vélo. Voilà, donc on va poursuivre avec les autres sports, mais avant de vous quitter, présent, un petit mot sur le dopage. Il y a une lutte très efficace ici en Martinique.
Oui, au même titre que dans les autres ligues et crosses de France, hein, nous mettons en place, enfin je dis non, c'est avec l'aide de Jeunesse et Sport, puisque c'est une compétence qui est dévolue à Jeunesse et Sport. Et donc il y a des contrôles hein, qui se font. Le président du cyclisme va vous en parler tout à l'heure, mais il y a des contrôles. Bon, les athlètes sont contrôlés au même titre que ces contrôles se font sur le territoire national. Donc il n'y a pas de passe-droit, disons, à ce niveau. Et il y a également des sensibilisations, des actions de sensibilisation qui sont faites par le CROSS en collaboration avec Jeunesse et Sport pour bien attirer l'attention des pratiquants sur les effets néfastes du dopage et faire en sorte qu'ils bannissent de leur préparation les produits dopants.
Très bien. Eh bien, présent Eustache, merci.
Oui, alors, la petite intervention que je voulais faire tout à l'heure concernant, je voulais surtout parler des exonérations, hein, des taxes fiscales que pourraient obtenir les ligues et comités, et également les abattements hein, que les dirigeants pourraient obtenir au niveau des impôts, puisqu'il y a un investissement qui est fait par les dirigeants. Bon, ça, bon, on peut le chiffrer, hein, bon, c'est un est passé dans les ligues, dans la, au niveau des clubs. Donc je crois qu'il est nécessaire que ce soit pris en compte au niveau des dirigeants sportifs.
Très bien, ce sera en tout cas le vœu qu'on peut formuler pour 2008. Merci aussi donc à Cédric Goldag hein, d'être venu nous parler de l'athlétisme en Martinique.
Oui, ben merci à vous de m'avoir invité. J'ai parlé brièvement, hein, certes, mais j'ai essayé de promotionner mon sport et je dois y aller effectivement parce que je suis aussi athlète.
Ben oui,
faut que j'aille m'entraîner pour pourquoi pas essayer d'être à Pékin moi aussi.
Pourquoi pas.
Donc juste avant d'y aller, je souhaite encore une fois formuler mes vœux pour toute la Martinique et en particulier pour les sportifs notamment les athlètes mais aussi aux sportifs et athlètes de métropole de Martinique et des Antilles en leur disant de continuer à s'entraîner, qu'on est là avec eux et qu'on fait tout, nous ici je parle en tant qu'athlète, pour les retrouver là-bas et défendre ensemble les couleurs de la Martinique et tenter d'être représentatif de la Martinique, des Antilles, en équipe de France et aux Jeux Olympiques pour cette année.
Très bien, ben, le rendez-vous est pris, voilà.
D'accord, et comme on dit, tiens bien, pas maudit.
Voilà, nos très bien. Alors maintenant, on va parler de hand avec donc Dominique Danglade. Dominique, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, comment se porte le hand ici en Martinique? Est-ce qu'il y a... On sait que c'est le sport numéro un sur l'île de La Réunion. Ici en Martinique, ça marche comment? C'est dans l'ombre du foot?
Le hand est à sa place. Oui. Le hand, c'est 3500 licenciés, c'est 40 ans d'existence, c'est une construction qui se poursuit, un pôle espoir. Mm-hmm. C'est une discipline qui est équilibrée financièrement, mais qui sait également que la limite est également tenue. Et il suffirait, par exemple, que les prix d'avion augmentent pour que nous basculions, nous aussi, dans la fragilité économique. Donc, les choses ne sont pas simples. C'est une discipline qui a basé son existence sur une construction sur le long terme. Nous voulons éviter l'urgence. Et donc, le hand est présent en Martinique au travers de 33 clubs.
33 clubs, oui.
Avec de bonnes relations avec sa fédération, la Fédération française de handball, un pôle espoir qui existe depuis 9 ans. D'autres disciplines l'ont également. Et donc, nous essayons de construire en collaboration, en mutualisation avec ses autres disciplines, le football, l'athlétisme. Ensuite, ce sont des relations avec la métropole. des relations, de le cadre des disciplines, des compétitions, interligues, intercomités, matchs de sélection, des sorties en dehors du département, parce que nous partons du principe que si nous sommes intégrés à la métropole, il est nécessaire que nous soyons nous-mêmes et que nous soyons avec notre environnement. Donc une ouverture et une, résolument une volonté d'agir en collaboration avec la Guadeloupe, la Guyane d'abord, pour mieux aller à la rencontre des autres. Donc nous souhaitons, nous sommes en passe d'intégrer les Jeux panaméricains et d'agir en coopération sur Haïti. Donc c'est une volonté d'ouverture. Le hand, c'est 150 arbitres, des arbitres qui sont en permanence les vecteurs de la formation du jeune, du joueur et du public. Donc nous leur demandons en permanence de faire passer nos valeurs, qui sont des valeurs du travail, des valeurs de respect également. Et ce sont des dirigeants qui sont accompagnés par le COSMA, des dirigeants bénévoles, mais vous en avez parlé il y a quelques instants. Ce sont 130 entraîneurs qui suivent une formation uniformisée sur la, sur le circuit, le parcours que fait un dirigeant, un sportif métropolitain. Avec une pointe quand même, une réflexion, quelle est notre part? Que devons-nous faire pour que nous soyons nous-mêmes, pour que nous ayons à profiter de ce qui a été identifié, à savoir les particularités du sportif martiniquais, ce qui nous permet d'avoir une explosivité qui s'exprime bien au niveau du handball. C'est au niveau national une bonne dizaine, une bonne quinzaine de jeunes, de joueurs qui jouent au haut niveau. Donc en division 1, en division 2 et en équipe de France. Et c'est l'occasion pour moi de dire à toutes ces personnes que nous rencontrons régulièrement, aussi bien Cathy Piejos que Joël Abatik, Cédric Sorindo, Grégory Martin et j'en passe, Teddy Poulet et bien d'autres. Woody Nivor qui vient de rejoindre le centre de formation de Paris Handball. Donc c'est une discipline qui s'inspire de ses collègues des autres disciplines en Martinique, qui est limitée par la surface financière, d'autant que nous sommes une île et il est nécessaire pour que nous progressions d'échanger, d'autant que le haut niveau se situe en Europe. Donc voilà pour la présentation très globale de la Ligue de Hand. Mais sachez que la Ligue de Hand est dirigée par 17 administrateurs sous la direction, sous la présidence d'Emmanuel Gandin.
D'accord. Et le public, il est nombreux au match?
C'est un public qui se déplace en famille. C'est un public qui répond de plus en plus présent, avec une grande communion au moment des finalités. C'est une communion où nous invitons nos amis de la Guadeloupe, de la Guyane, à partager avec nous, comme nous les invitons à ouvrir la saison avec nous au travers de compétitions que nous souhaitons remporter en permanence. C'est un public qui est un public de connaisseurs. C'est un public jeune qui fait notre force. Et c'est un public qui sait se tenir et qui a, je pense, qui est un bon vecteur de nos valeurs, qui sont des valeurs de travail, de respect, d'investigation également. C'est un public qui sait s'ouvrir pour mieux apprendre.
Vous avez bénéficié de l'effet des titres de 1995 et 2001.
Nous avons participé, nous participons encore à notre place, à notre place, puisque à un certain nombre de titres, l'équipe de France est passée en Martinique pour assurer sa préparation. Dernièrement encore en août pour la préparation du championnat du monde de féminin, l'équipe de France l'a assuré sa préparation avec le Brésil. C'était une occasion également pour nous de présenter ce que nous souhaitons aux entraîneurs, à savoir, il y a le hand en métropole, le hand en France, il y a le hand dans la zone avec le Brésil. Le Brésil est situé à la 7e place, nous avons à nous en inspirer. Et donc nous avons placé les entraîneurs devant la dualité, quoi choisir, comment choisir. Faites donc la synthèse.
D'accord, ok. Alors comment va le vélo maintenant? On va passer au vélo. Hein. Comment va le vélo? Alors on a Alfred de Fontis. Alfred, voilà. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous, beaucoup de difficultés déjà, les problèmes de dopage qui donnent malheureusement peut-être une image un peu mauvaise actuelle de votre sport.
Hein. Déjà pour vous présenter le vélo, c'est 1945. En 1945, il y avait deux clubs pour à peu près 20 adhérents. Au jour d'aujourd'hui, en 2008, nous sommes à 25 clubs et 1600 licenciés. C'est un grand parcours. Un parcours qui nous permet maintenant de remplir le calendrier cycliste avec des points forts au niveau du VTT, puisque nous chapeautons tant que le VTT, que le vélo tout-terrain et le vélo sur route. Nous commençons à rentrer dans la patrie du bicross, mais les choses nous paraissent très difficiles. En tout cas, le cyclisme sur route, c'est une discipline qui prend dans l'ampleur d'année en année, ainsi que le VTT. Alors, pour répondre à la question, le cyclisme, sur le plan international, c'est là que nous avons l'œil quand il s'agit de dopage, puisque avec le Tour de France, les compétitions internationales, dont ici, nous gérons chaque année, pendant le mois de juillet, le Tour cycliste international qui reçoit beaucoup d'équipes venant de l'extérieur, tant que des Colombiens, des Vénézuéliens, des Allemands, des Italiens, des métropolitains. En fait, il est international. C'est là que se passe le grand moment du contrôle du dopage. Donc, tout est mis en place pour que la DGS, qui assure les contrôles avec nos commissaires qui ont ce grade international, puisse gérer les affaires.
Alors, Alfred, l'épreuve numéro un ici, c'est le Tour de Martinique.
Oui, le Tour de Martinique qui est inscrit au calendrier international, mais nous avons d'autres compétitions telles que le Festival de la bicyclette qui est inscrit au calendrier national, le Trophée de la Caraïbe et d'autres compétitions, mais nous avons des moments phares pour ce sport. Du côté du VTT, il y a le Tour de Martinique pour les VTTistes et puis pas mal de challenges. Et on se déplace beaucoup à l'extérieur, dans la Caraïbe, et aussi nous sommes liés, pour le dire, à la Fédération française de cyclisme. Alors, en 1945, il n'y avait pas de fédération, c'était deux clubs qui avaient pris naissance. Maintenant, nous sommes liés à la Fédération française de cyclisme, liés à l'Union cycliste internationale. Nous sommes inscrits à la Fédération panaméricaine, et tout récemment, il y a deux ans de ça, j'ai inscrit notre comité à la Fédération caribéenne, puisque nous venons d'organiser le championnat de la Caraïbe.
D'accord. Et peut-être un jour un championnat de France sur route, ici, en Martinique, à Fort-de-France, pourquoi pas ?
Eh bien, la demande a été faite, et on en a parlé tout à l'heure, c'est toujours la distance et le transport de toutes ces voitures, puisqu'il y a des voitures spéciales pour les courses de vélo, et puis le combat que nous menons en ce moment, c'est concernant l'infrastructure que nous avons besoin, des pistes et anneaux cyclables qui tardent à venir. Donc, beaucoup de choses, mais je pense que pour avoir discuté avec la Fédération française de cyclisme, où nous avons d'excellents rapports avec la Fédération, la question cette proposition a déjà été posée. Pourquoi pas, même si ce n'est pas un championnat de France pour les amateurs, mais un championnat de France pour les jeunes, pourquoi pas ne pas commencer de ce côté et permettre que nous puissions organiser d'autres championnats.
Et peut-être aussi une étape du Tour de France un jour. Ça aussi, c'est un projet.
Oui, la demande avait été faite pour la Guadeloupe, mais c'est surtout au niveau de la distance que le problème se présente. Au niveau des avions, maintenant que Air Caraïbes est sur le réseau, pourquoi pas ne pas essayer. Mais même à notre niveau, nous avons essayé à un certain moment d'aller faire le départ du Tour de la Martinique, non loin d'ici, à Sainte-Lucie. La chose a été vraiment impossible. Donc, concernant le vélo, il y a beaucoup de matériel à transporter, et c'est là que le bas blesse. C'est pas une équipe de football ni une équipe de hand où on part avec un ballon, et puis non, il y a beaucoup de matériel à transporter. C'est un petit peu plus difficile.
Naturellement, il y a toutes les équipes cyclistes.
Nous avons des clubs qui évoluent énormément. On a pour preuve, en Martinique, nous avons deux clubs, je peux les citer, l'Espoir cycliste de Ducos et le Madina Bikers, qui figurent en nombre de licenciés parmi les 10 meilleurs clubs français. Donc, peut-être pas des résultats, mais en nombre de licenciés, c'est très important de pouvoir fédérer et permettre d'augmenter ce nombre de licenciés au niveau des clubs. Donc, une grande satisfaction, mais le combat n'est pas gagné, puisque ce qui est devenu notre cheval de bataille, c'est les infrastructures qui, je disais, qui tardent à venir.
Oui, des routes,
sur sur la ville de Ducos, le lieu a été choisi, donc le combat continue.
Il y a une passion pour le Tour de France ici.
Absolument, absolument. Malgré, alors il faut savoir pendant le mois de juillet, la Martinique vit à l'heure du cyclisme, parce que le matin au petit réveil, il y a le Tour de France en direct, et le soir il y a le Tour de Martinique en télé et la journée. Donc nous vivons à l'heure du cyclisme, et c'est ce que le président du COSMA disait. Le mois de juillet, c'est un mois qui est très important pour non seulement le cyclisme, mais aussi pour les yoles, en dehors de d'autres manifestations sportives.
Alors Philippe, pour vous dire qu'on a suivi d'autant plus le Tour cycliste du temps où Tiblin, notre Thomas Vauclair, a porté le maillot jaune pendant
alors à savoir pour l'information que Thomas Vauclair est pratiquement né à la Martinique, a fait ses premiers coups de pédale ici, a reçu une grande formation, et c'est à l'âge de 16-17 ans qu'il a rejoint le groupe de la Vendée U. C'est pourquoi très souvent ça lui a eu de parler beaucoup de la Martinique, parce qu'il a aussi son cœur en Martinique. À côté de lui, il y a eu Hervé Arcade qui est resté à deux doigts d'être passé dans les rangs du professionnalisme, mais je crois qu'en service militaire l'avait un petit peu privé de cet échelon, mais qui est aussi un cadre technique très performant à la Vendée.
Oui, parce qu'il n'y a pas trop de coureurs quand même antillais, martiniquais ou guadeloupéens dans le peloton cycliste professionnel. Comment ça s'explique ?
Ça s'explique, c'est très facile pour nous de pouvoir l'expliquer. Alors le cycliste que je suis, et j'ai aussi navigué pendant 15 ans dans l'encadrement technique, explique ceci, que la Martinique, il fait très chaud chez nous. Nous avons des difficultés avec tout ce qu'il y a comme montagne, de pouvoir préparer l'endurance. C'est pourquoi d'ailleurs, si nous voulons faire d'un Antillais un cycliste professionnel, dès l'âge de 14-13 ans, dès le début, il devra partir en métropole pour aller. C'est pas comme l'athlétisme. C'est pourquoi l'Antillais a des fibres pour le sprint, le sport de vitesse. Voilà. C'est pourquoi d'ailleurs, je vais revenir sur notre piste cyclable. Si on avait cet outil, je suis sûr que là en ce moment, on aurait plein de Martiniquais dans les sprints mondiaux, les sprints français, champion de France, champion du monde de sprint. Et d'ailleurs, notre terrain ne nous permet pas de faire un travail d'endurance en conséquence.
D'accord. Alors, Samuel, dernier invité, j'ai été surpris, c'est notre homme du ballon ovale. Il y a un véritable engouement pour le ballon ovale en Martinique.
C'est France Briam. Voilà, donc l'engouement s'est accru, on va dire, lors des derniers championnats du monde. Oui, championnats du monde, la Coupe du Monde en France. La Coupe du Monde en France. Vraiment, la Martinique a vibré. On a eu l'impression de découvrir pour certains qu'il y avait du rugby en Martinique, alors qu'effectivement, depuis quelques années, le rugby est là et bien là, et continue à faire son petit chemin. Aujourd'hui, je crois bien qu'il y a des retombées extrêmement positives. Je pense que France peut nous en parler à l'issue de cette Coupe du Monde.
Effectivement, le rugby existe en Martinique depuis 1969. Aujourd'hui, on n'a que 4 clubs, à peu près 500 licenciés. Mais je tiens à souligner que 70% de ces licenciés effectivement, ont moins de 19 ans. Après, le gros souci, effectivement, c'était l'objectif numéro 1 de la manifestation organisée autour de la Coupe du Monde, c'est que les gens sachent déjà qu'il y a du rugby en Martinique. Lorsque parfois la sélection se déplaçait dans la Caraïbe ou au niveau national, à l'aéroport, on demandait une équipe de football, mais de quel club ? On disait non, c'est une équipe de rugby. Alors déjà qu'ils comprennent ce que c'est que le rugby, que c'est pas du football américain, c'est déjà pas mal. Et ensuite, effectivement, on avait expliqué que oui, il y a du rugby en Martinique, et que c'est un sport pérenne, qu'il y a une compétition, qu'il y a des compétitions organisées ici, qu'il y a des clubs, des formations qui sont proposées, et que le rugby a sa place à part entière dans le paysage sportif martiniquais.
Il y a combien de clubs en gros ?
Aujourd'hui, on trouve 4 clubs répartis donc au nord avec Gauloise de Trinité et l'US Robert.
le Good Luck de Fort-de-France au centre, et dans le sud, le Rugby Sud Martinique qui est basé au Diamant.
D'accord. Alors on sait que dans l'équipe de France, il y a Thierry Dussautoir.
Il y a Thierry Dussautoir dans l'équipe de France.
Entre autres. Ouais, ouais.
Je voudrais citer également Jimmy Marlu, originaire du Gros Morne, qui a intégré l'équipe de France à un certain moment. Et puis un jeune joueur guadeloupéen dont le nom échappe à l'actuel, qui est pour le moment remplaçant au Stade Français, mais qui est tout jeune, il a 19 ans, 20 ans, et il y a des chances qu'il intègre à un moment ou un autre l'équipe de France de rugby, c'est tout le mal qu'on lui souhaite.
D'accord, donc cet engouement, ce phénomène perdure et continue là, depuis, depuis le mondial on...
Tout à fait, c'est vrai que si l'objectif était de faire savoir qu'il y avait du rugby en Martinique à l'occasion du mondial, les retombées étaient immédiates pour nous. Puisque avant même que la France n'atteigne les demi-finales face à l'Angleterre, avant même ce stade-là, on avait déjà multiplié par 3 le nombre de gamins en école de rugby. Alors malgré le fait qu'on avait préparé en formant un an, deux ans avant des éducateurs, on a quand même se retrouvé en manque d'effectifs. Mais évidemment, on a serré les coudes, commencé à le faire au rugby, et puis on a réussi à répondre aux demandes des parents et de leurs enfants.
Alors Philippe, il y a un problème particulier qui se pose au niveau du rugby, ce sont les infrastructures, parce que c'est vrai que longtemps, l'idée est restée dans les têtes que les rugbymen vont tout casser, ils vont casser les pelouses, donc certaines communes ont dit non, vous n'avez pas joué chez nous, c'est extrêmement difficile pour vous de trouver des stades.
Ouais. Ça n'a pas du tout été évident, c'est vrai qu'on partage les terrains avec le football, qui malheureusement ne joue pas toujours le jeu.
Oui, ouais, qui n'aime pas trop, parce que ça bise
voilà.
La pelouse alors.
Ouais, mais je ne voudrais pas vraiment faire... porter toute la charge sur nos amis du football, c'est aussi les municipalités. Pour eux, le football sont vraiment des électeurs. Il ne faudrait pas que les électeurs soient mécontents avec une bande de mecs qui courent après un ballon ovale et qui abîment les terrains. Alors, évidemment, nous, par rapport à ça, on a plutôt tendance à dire que c'est faux. On n'abîme pas les terrains, en tout cas pas tant que ça. C'est plutôt les matchs de foot qui abîment beaucoup les terrains devant les gages du goal, dans le rond central. Tandis que nous, on a, un travail homogène sur l'ensemble du terrain. Et que même nous, partant de pluie, quand le terrain est vraiment trop mouillé, on prend la précaution sagement de ne pas jouer, de reporter le match pour ne pas abîmer notre outil de jeu.
D'accord. Dernier petit mot, il faut aussi partir, il faut partir en métropole.
Bon, pour ça, j'ai un avis assez partagé. C'est clair que, comme bon nombre d'intervenants ont souligné ici, il est intéressant pour nos jeunes de partir relativement tôt, pour partir compléter sa formation au niveau national. Je crois qu'on a la chance, la richesse d'être à la fois français et caraïbéen. Mm-hmm. Il y a également des compétitions dans la Caraïbe.
Ah, oui.
Et lorsqu'on se retrouve confronté à des Trinidadiens, à des Barbadiens qui sont dans la Caraïbe, on a également beaucoup à apprendre d'eux à ce niveau-là aussi.
Très bien, ça sera le mot de fin. Merci. Samuel, merci. On a fait un tour d'horizon très complet de l'actualité sportive martiniquaise, de la vie sportive martiniquaise.
Tout à fait. Nous avons choisi ça, au pif, quelques disciplines. Bon, il y en a bien d'autres qui font le bonheur des Martiniquais. Mais en tout cas, ceux d'aujourd'hui ont été quand même assez représentatifs, notamment le rugby. On a voulu qu'on en parle parce qu'effectivement, il y a cet essor qui se prend, cette émulation. L'athlétisme, parce que Pékin arrive bientôt et que la majorité des Martiniquais sont athlètes. Et donc certains iront à Pékin. Le cyclisme qui connaît de grosses difficultés, donc on a voulu en parler également. Et puis le handball, c'est le sport sage en Martinique. Autrement dit, pendant que tout s'agite, eh bien, le handball est là tranquillement. Gestion saine, famille, bon enfant qui vient au match. Et donc tout se déroule bien. Donc on a eu quand même une facette assez quand même éclectique, on va dire, de ce qui se passe au niveau du sport martiniquais aujourd'hui.
Très bien, merci Samuel. On reste ensemble parce que dans quelques minutes on enchaîne maintenant avec Tribune Foot. On va parler du foot et rien que du foot donc en Martinique.
Merci
Samuel, à tout à l'heure.